monde a touché à sa fin. C'est vraiment notre prière. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. C'est terrible. Des guerres, des bruits de guerre partout. L'ONU n'a plus de pouvoir. C'est le pouvoir des plus puissants. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui va amener la paix véritable dans ce monde. Il n'y a que Jésus qui va amener le bonheur véritable dans ce monde. Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus et de nous avoir montré la lumière de ce temps du soir. Un temps très très difficile. Un temps où le péché abonde. Mais Dieu nous a fait cette grâce-là. Donc qu'il revienne, mais aussi, chacun doit aussi se poser la question, est-ce que je suis prêt quand il va revenir? Il faut être prêt pour qu'il puisse nous prendre. Et la seule chose qui nous prépare, c'est juste sa parole. C'est pour cette raison que nous venons tout le temps ici pour juste écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous assiste. Je vous salue tous et toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous inviter, vous lever pour que nous puissions lire la parole. Nous allons lire dans Genèse. Genèse chapitre 35. C'est toujours là l'histoire de Jacob. Au chapitre 35, au verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Nous allons ajouter dans le Nouveau Testament l'histoire en rapport avec l'histoire de Moïse. Donc, acte 7, au verset 23. Au verset 23, il est dit ceci. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses saintes paroles. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous venons de chanter presque en pleurant. En disant, reviens, Seigneur Jésus. Les temps sont très fâcheux, très difficiles. Et nous avons difficile même à vivre ta parole. Tellement que les tentations sont très, très importantes. Mais nous continuons à nous confier à toi, mon Dieu. Et t'as convaincu que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et t'as convaincu que, Seigneur, toi qui es celui qui avait aidé Paul, ton serviteur, tu es celui qui peut aussi nous aider, Seigneur. Puisque nous nous souvenons de Paul, à un moment donné, il était aussi dans des problèmes. Il pouvait dire le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Il est bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Malheur à moi, oh, qui va me délivrer de cette chair de péché. Mais Dieu, c'est lui qui l'avait aidé, Seigneur. Et jusqu'à ce qu'il puisse dire, maintenant là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Il pouvait dire, mais qu'est-ce qui va encore me séparer de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que c'est l'impudicité de ce monde? Non. Est-ce que ce sont les mensonges de ce monde? Non. Oui, Seigneur. Tu peux nous aider afin que nous puissions arriver à de tels niveaux de spiritualité. C'est pour cette raison que nous sommes ici, Seigneur. Et t'as convaincu que ça, toi, nous ne pouvons rien du tout. Et c'est toi qui l'avais dit et nous sommes conscients de cela, Seigneur. Conduis maintenant toutes choses. Bénis tes fils et tes filles, Seigneur, qui se sont sacrifiés pour qu'ils puissent t'écouter, Seigneur. Oh Dieu, ne permets pas qu'un homme puisse leur parler. Permets que toi seul, tu puisses leur parler, Seigneur. Fais la chose que tu as l'habitude de faire, de parler de bec à bec, puisque tu te présentes dans la Bible comme étant la mère aigle. Accorde-nous cela, Seigneur. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir maintenant. Voilà, nous venons de lire l'histoire, un peu de l'histoire de Jacob là. Nous continuons avec. Je vais un peu relire ça. Jacob dit à sa maison et à tous ceux-là qui étaient avec lui. Alors, c'est des ordres. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc, Dieu sait qu'au milieu de nous, il y a des dieux étrangers. Ces dieux-là ne sont pas toujours des statuettes. Les dieux-là, ce sont toutes ces choses-là que nous faisons passer avant Dieu. Puisque nous l'avons toujours dit, que Dieu doit prendre la place qui lui revient. Et la place qui lui revient, nous connaissons cette place-là. C'est la toute première place. Dieu, en tout cas, n'est pas digne d'une deuxième place. Non, c'est la première place. Alors, il ne nous empêche pas de prendre toutes ces choses-là. On les met troisième, deuxième, ainsi de suite. Là, il ne vous a jamais dit de ne pas aimer telle ou telle chose, de ne pas aimer manger. Mais mettons Dieu à la place qui lui revient. Et cette place-là, c'est la première. Parce que quand il dit ça, c'est parce que, justement, il y a, par exemple, des dieux, comme par exemple ce dieu-là qui est dans Philippiens, je vais le chercher. Je vais montrer un des dieux qui prend la place de l'Éternel si souvent. Alors, la Bible parle de ce dieu-là. C'est dans Philippiens 4. Philippiens 4. Au verset 19. Nous y sommes. Hein? Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, voici le Dieu de ces personnes, leur ventre. Donc, c'est le ventre qui a la première place, toujours le ventre, l'argent, des choses à manger. Et nous savons que beaucoup de gens vont rater l'enlèvement à cause de ça. C'est écrit déjà dans la Bible, ils mangeaient finalement, ils n'ont pas su qu'il y a eu l'enlèvement. Et quoi encore? Ils ont pour Dieu donc leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dieu ne nous empêche pas de penser aux choses de la terre, mais ne penser qu'aux choses de la terre, ça devient un Dieu. N'est-ce pas? Donc, si nous pouvons penser d'abord à Dieu et après aux choses de la terre, alors Dieu ne peut pas nous tenir rigueur, puisqu'il sait que nous avons aussi besoin des choses de la terre. Parce que nous sommes encore dans la chair. Mais il doit occuper sa première place. Alléluia. Amen. C'est ça donc les dieux étrangers. Alors, quel est le deuxième commandement? C'est que, il a dit, purifiez-vous. Les vous là, c'est qui? Vous devez vous purifier. Parce que quand on dit « purifiez-vous », il y en a qui disent « mais Dieu ne voit que le cœur ». Non, le « vous » là, ce n'est pas seulement le cœur. Le « vous », c'est tout votre être. Purifiez-vous. Là, c'est nous l'avons dans Thessaloniciens qui nous le dit clairement. C'est tout notre être qui est ce « vous ». Un Thessalonicien, je crois, 5. Voilà. Il dit ceci, mais verset 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Pas une partie, pas seulement le cœur ou l'âme, même le corps. Que nous puissions être comme Moïse qui pouvait dire non. Même l'oncle de l'oncle là de nos bêtes là ne restera pas en Égypte. Même pas notre façon de nous habiller. Nous ne voulons pas laisser ça dans le monde. Alléluia. C'est ça ce que nous devons être. Donc, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'être là c'est l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de pleurer ici, que Dieu revienne, mais oui, il veut que quand il va revenir, qu'il puisse nous trouver avec notre être tout entier sanctifié. Que Dieu nous assiste. Voilà. Nous avançons encore, on va revenir sur cette écriture de Jacob. Il continue un autre commandement. Changez de vêtements. Alors ici, ça devient un peu plus clair. Mais on doit changer de vêtements. Pour prendre quel vêtement maintenant? Voilà. On doit changer de vêtements et on va chercher le vêtement que nous devons prendre. Je pense que c'est dans Galate, quelque chose comme ça, qui va nous donner les vêtements que nous devons prendre après nous être débarrassés de tous ces vêtements souillés, de toute notre justice souillée. Alors, quel est ce vêtement? Et c'est dans Galates 3, au verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors là, ça devient, on comprend facilement, puisque on a dit, mais comment on peut se purifier? Comment on peut faire ça de nous-mêmes? Voilà, il y a maintenant, la solution est là. Venez seulement à Christ. Tombez amoureux de Jésus-Christ. C'est lui qui va nous faciliter cette tâche. Il va nous aider pour que, en tout cas au milieu de nous, il ne puisse plus y avoir tous ces dieux étrangers. Il va nous aider pour que nous puissions vraiment être saints dans toute notre conduite. Il va nous aider pour que même le corps, l'esprit et l'âme puissent être sanctifiés. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Selon ce que l'Éternel a dit d'ailleurs dans Ézéchiel, hein. Ézéchiel 36, il le dit clairement. Il dit, au verset 23, quand je serai sanctifié, je vais lire vers 5, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Donc c'est lui, c'est question de tomber amoureux de Jésus-Christ. Il va nous aider lui-même pour que nous puissions entrer. En fait, tout ce que nous sommes en train de dire là, purification, c'est justement le deuxième niveau de spiritualité dans lequel il voudrait que nous puissions nous retrouver. Parce que vous vous souvenez du fait que nous avons dit que notre appartement, c'est un type. Quand vous avez la cuisine là, vous devez savoir que ça typifie quelque chose de spirituel. Quand vous avez le salon, même chose. Quand vous avez la chambre à coucher, c'est la même chose. Maintenant, donc la vie chrétienne et cette relation personnelle avec Dieu, c'est une relation qui évolue. Il vous conduit de la cuisine vers le salon maintenant. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les niveaux salon, les niveaux lieu saint, puisque c'est le type du lieu saint pour les temples. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et alors, comme je vous l'ai dit la fois passée, c'est juste pour que chacun puisse s'examiner, puisque la Bible nous demande toujours de nous examiner pour chercher à savoir si on est déjà dans ces lieux, si on n'est pas encore dans ces lieux, ou si on a déjà dépassé ces lieux. Chacun doit chercher à s'examiner. La parole de Dieu, c'est pour toi. Tu dois te poser des questions. Voilà. Alléluia. Donc aujourd'hui, dans notre relation personnelle avec Dieu, nous allons essayer de voir les caractéristiques de ce deuxième niveau-là et pour que chacun s'examine. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons faire un petit rappel sur ce que nous avions dit là pour les premiers niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de cuisine, donc du parvis. Ce niveau-là, à la cuisine, donc où la salle à manger, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe là? On ne fait que manger. On mange. Il y a des choses qui nous intéressent le plus là, c'est... Enfin, on s'occupe le plus de la bouche et de la nourriture. On a difficile à se parler à ce moment. On a difficile à parler, la bouche pleine. Et Dieu avait fait en sorte que ça ne puisse pas se faire, puisque si vous osez le faire, vous aurez ce qu'on appelle la fausse route alimentaire, qui peut vous tuer. Donc là, on s'intéresse seulement à la nourriture. Et les deux membres qui sont vraiment les plus en mouvement, c'est la main et la bouche. Et là, vous voyez donc, on ne fait que recevoir. Donnez, donne-moi encore, donne-moi encore, donne-moi encore cette boule de foufou. Hein? C'est tout le temps comme ça. Hein? Donc là, c'est toi seul, là avec la parole. Et le prophète de Dieu a comparé ça à quelqu'un qui vient nouvellement dans une église à la recherche de Jésus-Christ. Il est là, il est en train d'écouter, il écoute jusqu'au moment où la parole va commencer à lui parler. La parole va commencer à discerner les pensées de son cœur. Il a dit, mais c'est moi? Mais où est-ce que ce prédicateur-là? Mais on est allé m'accuser auprès de lui, et ainsi de suite. C'est comme ça que vient la foi. Hein? C'est à ce moment-là qu'il va croire. Il va dire, oh! Là, il y a quelque chose de particulier. On ne me connaît pas, mais toutes ces choses-là que je fais dans la cachette, c'est ce qui est en train de sortir du haut de la chair. Voilà, il est en train de manger. Et le prophète de Dieu dit ceci, c'est dans la brochure intitulée « L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier », paragraphe 25, et ça a été prêché le 30 juin 1960. Il dit, à quoi sert la cuisine? C'est là où l'on mange. C'est comme le premier parvis de l'église. Vous venez, vous vous asseyez dans le siège de derrière, vous voyez, tout humide là. Donc, vous ne connaissez pas encore les frères et les sœurs. Juste la parole. Vous vous asseyez là, donc, dans le siège de derrière, vous écoutez la parole. Vous commencez à dire, oh Dieu! Il s'est agi de moi. Donc, ça commence à être personnalisé. Alors, c'est là la foi intervient et vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Alors, le prophète continue, dit, puis la chose suivante, c'est la salle de séjour, donc le salon, et ainsi de suite. Donc, c'est là où nous sommes maintenant. Alors, nous allons maintenant parler de ce deuxième niveau de spiritualité, c'est la sanctification, c'est le lieu saint. Et nous allons illustrer ça avec l'histoire de Moïse, dans Acte 7. L'histoire de Moïse, Acte 7. Que nous connaissons bien, c'était le discours d'Étienne. Et c'est ce que nous avons lu aussi, nous avons lu une partie de ça au début. Voilà. On va commencer par lire le verset 23. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères. Visiter ses frères. Donc, lui, il était tout seul là-bas, dans le palais royal. On venait lui dire, mais tes frères souffrent là-bas. Il a dit, non, il faut que j'aille voir moi-même. Donc, il ne faut pas seulement prier pour les frères qui sont malades. Il faut aller leur rendre visite. Vous allez entrer dans un autre niveau, un niveau de compréhension de leurs souffrances. et niveau de compréhension de leur malheur. Et d'ailleurs, la Bible le dit quelque part, non? Que la vraie religion va consister à visiter les veuves dans leur affliction. Là, vous allez comprendre plus. Et ça, c'est très, très important. Voyez, au premier niveau, là, le monsieur, il est là juste avec la parole, avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il a aussi des frères et des sœurs. Il a des petits frères et des petites sœurs que nous sommes. Dans l'assemblée, il n'y a pas que la parole. Donc, il n'y a pas que Jésus-Christ. Il y a des sœurs, il y a des frères. Et c'est ce qui fait l'assemblée. Donc, vous voyez, vous quittez le premier niveau là. Maintenant, vous voyez, il devient un frère. On l'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il s'intègre maintenant dans l'assemblée. Il commence à comprendre. Ah, il y a des frères et des sœurs avec qui je peux communier. Donc là, le degré de communion augmente, puisque maintenant, il s'intègre. Et là, c'est très, très important, très, très important de nous rendre visite les uns les autres pour que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Il est allé visiter, qui ça? Ses frères. Les personnes que Pharaon appelait des esclaves, lui, il les appelle ses frères. Bien qu'ils étaient méprisés là-bas, il n'a pas eu honte de les appeler ses frères. C'est comme ça. Donc, ça, c'est une très, très grande profondeur. Aussi longtemps que vous n'avez pas la révélation de ce qu'on appelle un frère à Christ, une sœur à Christ, vous pouvez vous poser la question, à quel niveau vous vous retrouvez? Dans ce deuxième niveau, on entre dans cette profondeur. On comprend l'importance de ce qu'on appelle un frère à Christ, de ce qu'on appelle une sœur à Christ. Et c'est quoi un frère à Christ? C'est quelqu'un avec qui vous allez vivre toute l'éternité. Alléluia. Donc, nos frères dans la chair, tous nos collègues là, hein, devant qui nous avons honte même de Jésus-Christ, si ces personnes-là ne croient pas à Jésus aujourd'hui, c'est le tout dernier rendez-vous aujourd'hui dans ce monde. Nous ne les verrons plus jamais. Mais avec ton frère, ta sœur, vous allez vivre toute l'éternité. Et ça, c'était la profondeur que Moïse a pu découvrir. Alléluia. Et là, vous savez que nous n'avons pas souvent cette profondeur. C'est une des raisons pour lesquelles nos prières ne parviennent pas aussi. Vous savez, je pense que le frère Branham en a parlé quelque part dans une brochure. Il est même plus facile de croire à Dieu que de croire à un frère comme étant un serviteur de Dieu. Vous savez que c'est pour cette raison que Jésus même a été tué. Dis-toi qui est un homme. Voilà. Donc, le fait que nous ne parvions pas à voir Dieu dans un frère, Dieu dans une sœur, c'est un problème. Un grand, grand problème. Alléluia. Voyez, donc, ça c'était un des secrets de Moïse. Moïse pouvait voir Dieu. D'ailleurs, il dit l'opprobre de Christ. C'est hébreu, on peut lire ça un peu. C'est hébreu 11, là qui parle de la foi. Voilà. Hébreu. On va lire ça, c'est quand même un peu intéressant, ça. Hébreu. J'aime bien parler de ce sujet-là. Donc, Hébreu 11, au verset 26 peut-être, ou verset 5. Donc, voilà. Bon, disons 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il a compris ce qu'on appelle un frère à Christ. Il a compris ce qu'on appelle une sœur à Christ. C'est une très grande profondeur que nous négligeons très, très souvent. Alors, et là, c'est un des secrets de son ministère. Vous savez que un jour, Dieu voulait même détruire Israël. Parce qu'Israël était devenu tellement, tellement difficile. Il résistait tout le temps à la parole de Dieu. Alors l'Éternel a dit, je vais détruire. Moïse a dit, si vous voulez détruire Israël, commencez par moi. Il a pris la place des autres. C'était le type de Jésus-Christ. C'est cet amour-là que Dieu, que nous devons solliciter. Un vrai amour, pas un amour hypocrite. Que nous devons solliciter auprès de notre Dieu un amour profond et une révélation que nous sommes dans un seul corps. Ce corps-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes membres les uns des autres dans ce corps-là. Alléluia. Alors, donc, ça, c'est ça son secret. Et c'est ainsi que Dieu... Bon, frère Branham l'a dit, le secret de son ministère, c'était ça aussi. Il pouvait entrer dans la souffrance du malade. Nous n'entrons pas souvent dans la souffrance de nos frères quand nous prions. Puisque quelqu'un qui prie, Seigneur, bénis mon frère là, quand il est entré, alors qu'il est en train de passer à la machine à laver et à son travail, il n'est pas entré. Il a, le prophète dit que là, il n'a même pas prié. Il n'a fait que répéter des paroles. Alléluia. Est-ce que c'est trop dur ou quoi? Je ne sais pas. Bon, merci. Bon, il n'a fait que répéter les paroles. Ce n'est pas la prière. Alléluia. Amen, amen. Mais non, voilà, c'est ainsi que Dieu l'a beaucoup béni. En fait, avant d'aller là même, vous voyez, la Bible dit clairement, dans 1 Jean, hein, dans 1 Jean 4, au verset 11, l'amour des frères et des sœurs. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, hein, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Quand nous disons que nous aimons Dieu là, et quand on critique nos frères, nous sommes des menteurs tout simplement. Et la vérité n'est pas à nous. Donc personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, hein, Dieu demeure à nous. Et son amour est parfait à nous. Alors, il continue au verset 20 là. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il y a plein de menteurs parmi nous. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Il n'y a pas plus grande chose que l'amour. L'amour est plus grand que la foi. C'est l'amour qui donne même la foi. Quand vous allez visiter votre frère là-bas, juste l'amour va peut justement le guérir. Parce que l'amour va donner la foi. Finalement, il va capter justement ce murmure doux et subtil qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. » Alléluia. Alors, c'était vraiment là le secret même de Moïse. C'est ici que j'aime bien lire ça, qu'il n'y a pas eu un autre prophète aussi grand que Moïse, puisqu'il était plein d'amour. J'aime bien lire ce verset-là. Deutéronome 34. Deutéronome 34, au verset 10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse. Ce n'est pas parce que... Non, il était plein d'amour. C'est ainsi que Dieu l'a beaucoup utilisé aussi. Que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé. Pour tous les signes et le miracle que Dieu la voyait faire au pays d'Égypte. Contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Vraiment, moi je peux le dire aussi, pour le bien-aimé frère Branham, cet humble serviteur de Dieu, après les apôtres, je peux vraiment dire qu'il n'y a pas eu un autre prophète que Dieu a utilisé avec autant de puissance. Il faut lire la biographie, mais c'est terrible des choses que Dieu a fait avec cet homme. Waouh! Mais il dit ceci, le secret c'est que la souffrance de son frère, c'était sa souffrance. La joie de son frère, c'était sa joie. Alléluia. Que Dieu nous assiste vraiment à faire ça. Et c'est le verset qui est dans la Bible. Hein? C'est Corinthiens 12. Hein? Et là, il vivait ça. Il ne répétait pas que répéter. Ne soyons pas des répétiteurs de versets, des répétiteurs de citations, mais que Dieu nous aide à faire que nous soyons des épîtres, des lettres écrites. Alléluia. La vie est plus... Donc, notre vie parle beaucoup plus fort que tout ce que nous pouvons nous mettre là à témoigner, et ainsi de suite. Voilà. 1 Corinthiens 12, au verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est ce qui se passe dans notre organisme. Vous voyez, quand il y a une poussière qui tombe dans l'œil, automatique, la main est là pour venir justement au secours de l'œil. Amen. Voilà, donc à ce niveau ici, vraiment, vous voyez, hein, la personne veut vraiment faire quelque chose pour le bien des enfants de Dieu, pour le bien de Dieu. Il devient zélé. On voit Moïse, par exemple, qui revient l'autre, donc la fois suivante, c'est acte 7, hein. Donc, il est devenu un peu assidu au temple. Hein? Donc, c'est au verset... le verset 26, acte 7. Le jour suivant, il est encore retourné là. Donc, pour voir ses frères, il est retourné à l'église. C'est tout différent de 9 lépreux. Donc, au premier niveau, on n'a pas ce zèle. Quand on entre dans ce deuxième niveau, on a un zèle pour les choses du royaume. On veut vraiment faire quelque chose pour Dieu. C'est ça, et ce niveau-là. Si vous n'avez pas ces ailes-là, si je n'ai pas ces ailes, je peux me demander si je suis dans ce niveau. Les ailes comme celui qui était dans Moïse. Les ailes de vouloir faire quelque chose pour les affaires du Père. Alléluia. C'est une des caractéristiques. Voilà. Donc, nous allons voir, comme je parle beaucoup, nous allons voir d'autres caractéristiques. Il y a, par exemple, aussi, nous allons voir que l'autre caractéristique, ça sera, donc, votre manière de prier va aussi changer. Puisque, voilà, vous vous intéressez déjà aux choses de Dieu, donc vous allez prier aussi d'une autre manière. Et votre vie elle-même va aussi être différente de la vie de la personne qui est dans le premier niveau. Alors, donc là, on voit vraiment bien le zèle. Ils sont zélés. Ils ne sont pas comme l'Odyssée. Jésus-Christ, le Seigneur, a parlé très durement contre l'Odyssée à cause du zèle. L'Odyssée, c'est une église tiède qui n'a pas de zèle pour les choses de Dieu. Et donc, du zèle, répare-toi, l'Odyssée. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Alors, mais... Voilà, il y a toujours un main. Nous sommes dans un niveau. Voilà. Un niveau qui n'est pas le tout dernier niveau. Donc, il y a des limites. Il y a des choses aussi, justement, qui montrent que ce n'est pas encore la perfection. Voilà. Quelle est cette chose-là? Vous voyez, au verset 24, hein, de Acte 7. Il a vu un qui qu'on outrageait, il prena sa défense, il vengea celui qui était maltraité, il frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se battaient, il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef ou juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Voilà maintenant la faiblesse de ce niveau-là. Finalement. Mais il a eu beaucoup plus de zèle quand même que les neuf lépreux. Les neuf lépreux étaient allés à l'église seulement ce jour-là. Le jour-là où le Seigneur les avait guéris. Mais Moïse est allé quand même les jours suivants. Mais finalement, ses zèles s'est affaibli. Il a eu peur. Il a fui. Donc au deuxième niveau, c'est encore une fois un peu immature. C'est une foi, hein? On voit vraiment quelqu'un qui est zélé, qui fait beaucoup de bonnes choses, mais il est encore un peu immature. Pourquoi? Il n'a pas une base très très solide. Ce qui le montre, c'est ça. Au verset 25, il pensait. C'est une foi qui est basée sur « je pense ». Il n'avait pas encore fait la rencontre personnelle avec Dieu. Il n'avait que les Écritures, puisque le prophète le dit, qu'il connaissait tout ça, que la Bible parlait du fait que les enfants d'Israël seraient esclaves et que bon, il y aurait un libérateur. Il avait la révélation que c'est lui qui serait le libérateur. Mais Dieu ne l'avait pas encore rencontré. Donc dans ce niveau ici, on fait des choses avec précipitation. Alors que Dieu nous dit ceci. Il nous dit dans Actes 1er. Il dit ceci. Actes 1er au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Attendre ce que le Père avait promis avant de bouger un peu trop. Là, il faut attendre la puissance venant du Père qui va vous aider pour que vous ne puissiez plus avoir peur de Pharaon. Vous savez qu'après, c'est fini. Hein? Il n'avait plus peur. Il était venu. Et ce qui s'est passé avec Moïse, parce que là-dedans, c'était Dieu maintenant qui était en action. Et le prophète le dit, hein, il le dit. Il dit là, Moïse, donc, il s'est basé seulement sur les Écritures et sur la théologie faite des mains d'hommes, mais il n'était pas encore caché vraiment à Jésus-Christ, qui sera le troisième niveau. Donc, c'est ici qu'il a échoué. Donc, c'est une foi immature. C'est une foi qui est basée sur « je pense ». C'est tout différent de la foi de Job, qui est la foi « je sais ». Je sais, j'ai la révélation. Vous savez que la révélation, c'est la chose la plus solide qui puisse exister. Quand Dieu vous a révélé une chose, toute l'Église peut être contre ça, ça ne peut pas vous déstabiliser. Tout le monde peut être contre ça. Mais justement, à ce niveau ici, Moïse, lui, n'avait que comme base, juste, bon, je fais ceci parce que j'ai lu dans la Bible. Ce n'est pas encore très solide comme foi, ça. Je fais ceci puisque le pasteur l'a dit. Non. Mais je fais ceci puisque Dieu m'a dit au travers de la Bible. Dieu m'a parlé au travers de la prédication. Car c'est Dieu qui t'a parlé au travers de la prédication. Tous les démons de ce monde n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce que là, c'est Dieu. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Sur ce roc de la révélation, je bâtirai mon église et les forces du séjour de mort ne prévaudront point contre cette église. C'est ça. Et comment avoir cette révélation? C'est toujours l'amour. Il faut tomber amoureux de cet homme-là. Homme de Jésus-Christ. Mais oui, quand vous tombez amoureux de lui, mais il va commencer à vous donner, à vous communiquer ce secret. Comme ça se passe dans la chambre à coucher. Vous êtes amoureux de lui. Qu'est-ce qu'il peut encore vous cacher? Il a dit ça à Abraham. Cacherai-je, Abraham, ce que je vais faire à Sodome? Parce que Abraham était devenu l'ami de Dieu. Il a dit à Daniel, mais depuis le moment-là où vous avez commencé à prier, la parole a été sortie. Et je suis venu pour vous l'annoncer. Pourquoi? Parce que vous êtes bien-aimés. C'est l'amour de la vérité, l'amour de la parole. Et ça, il n'y a que Dieu qui déverse ça à nous, puisqu'il nous a connus dès avant la fondation du monde. J'ai aimé Ésaü et Jacob. Il a aimé, puisqu'il voyait déjà l'amour de Dieu dans son cœur. Alors, il a aimé. Voilà. Donc là, quand on aime Dieu, alors, il se révèle aussi à vous. Il a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ça, c'est dit dans la Bible. Puisque c'est un signe que lui, il vous a aimé le premier. Quand vous l'aimez, c'est qu'il vous a aimé le premier. Alléluia. Amen, amen. Ah, c'est très intéressant. Et vraiment, ce deuxième niveau est assez vaste, donc on va bientôt couper là-bas pour qu'on puisse continuer le jour où on aura encore, c'est le jour où le Seigneur pourra nous le permettre. Mais voilà, donc dans ce niveau ici, justement, c'est un niveau où on essaie de faire quelque chose pour Dieu. Mais souvent, justement, c'est parce qu'on est encore un peu moins mûr. On le fait de soi-même, on n'a pas encore vraiment la conduite du Saint-Esprit pour ça. Et c'est à cause de ça, justement, que ça devient un peu, justement, ça échoue quoi. Voilà. C'est cela, on a ce qu'on appelle la foi intellectuelle. En fait, tout le monde commence par cette foi-là, parce que nous sommes tous là-dedans. Alors, il faut que cette foi intellectuelle-là descende jusque dans le cœur. Pour que vous ayez maintenant la foi qui vous est révélée. Vous n'allez pas dire, bon, j'ai fait ceci parce que je l'ai appris à la prédication, mais parce que Dieu me l'a appris au travers de la prédication. C'est différent. Hein? Voilà. J'ai fait ceci, ce n'est pas parce que j'ai lu la Bible, mais Dieu m'a parlé au travers de la Bible. Dieu a placé ça. Derrière toutes ces écritures-là, il y a une petite voix qui doit te parler. Derrière la prédication, il y a une petite voix qui doit te parler. Amen, amen. Donc, voyez, donc, à ce niveau ici, on a tendance à beaucoup parler de Dieu. Comme on peut encore lire ça, hein, Moïse. On a tendance à beaucoup parler. Voyez, au verset, acte 7, verset 22. Moïse fit instruire dans toute la sagesse les Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il parlait terriblement, Moïse. Il parlait, il était très, très éloquent. Mais après, donc on n'a pas le temps de le lire, hein? Après, quand il se retrouvait devant le buisson ardent, vous savez ce qu'il a répondu à Dieu? Il dit, je ne sais pas parler. Vous voulez m'envoyer en Égypte? Moi, je ne sais pas parler. Mais alors, où est partie cette puissance de parler là? C'est Dieu qui a... Dieu ferme cette bouche là. Il veut que vous puissiez plus utiliser ça. Ouais. Vous puissiez plus utiliser vos oreilles. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alors, il faut être très attentif. Alléluia. Sinon, vous allez rater. Attentif, au lieu de vous laisser distraire par le téléphone, attentif. Dieu a toujours une petite voix à vous dire. Il faut capter ça. Mais il y a des grosses voix dans ce monde qui viendront pour que vous ne puissiez pas capter la voix de Dieu. Le pasteur en avait un peu parlé ici, il avait dit quand Élisée était en train de marcher avec Élie, Élisée lui demande une chose difficile. Il dit, ben, je veux la double portion de ton esprit. Il dit, ah, ça c'est quand même une chose difficile. Mais si tu me vois, donc si tu maintiens ton regard braqué sur moi comme ça, tu auras la chose. Donc toutes ces choses difficiles, nous pouvons les voir, mais c'est question de rester attentif. La Bible le dit que nous puissions être là à parler, mais prompt à écouter. Une des choses qui manque dans ce niveau-là, c'est que on n'écoute pas. C'est Moïse. Il fallait qu'il écoute d'abord. Et Dieu, quand il a fait ça, donc il lui a bloqué un peu la bouche. C'était la formation. Le talent, le former. Vous savez aussi que il est dit quelque part que Moïse était l'homme le plus patient du monde. Cette patience-là, ce n'est pas un paquet de patience qui lui était tombé du ciel. Non. Si vous voulez la tempérance, comme le frère François l'a toujours dit ici, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous fasse tomber ça du ciel. Il va mettre à côté de vous un frère difficile ou une sœur difficile pour que vous puissiez le supporter. Alléluia. Bon, on n'a pas tout le temps de lire maintenant, mais pour les cas de Moïse, en fait, là où il était allé s'enfuir, Dieu lui a donné Séphora, une femme difficile. Vous savez que quand Moïse avait oublié de circoncire l'enfant, les enfants ou l'enfant, je ne sais plus, alors Séphora a dit, ah, comment tu as oublié ça? Séphora s'est mis à circoncire les enfants, il a jeté les prépuces. Entre les pieds de Moïse. Le prophète de Dieu dit ceci, il dit que c'était vraiment pour former le caractère de Moïse. Je vais lire ça vite, je crois. Écoutez sa voix, c'est pas ça encore. C'était pour former le caractère. Oui, voilà. Donc, il a dit ça à Moïse, le grand serviteur, prêché le 22 janvier 1955. Il dit, si vous pensez avoir épousé une femme au tempérament un peu colérique, c'est peut-être Dieu qui cherche à vous adoucir un peu. La même chose vice-versa. Séphora avait plutôt un tempérament colérique. Elle l'a démontré quand elle a coupé les prépices de son fils. Il a jeté devant Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Oh là là! Je m'imagine que par moments, les choses ne se passaient pas à toute tranquillité. Que faisait-il, en fait? Il formait le caractère de cet homme par rapport au programme de Dieu à l'époque. Alléluia. Et je suis en train de courir un peu, mais tout ça, c'est écrit dans la Bible. C'est dans Exode 4, verset 5. Et petit témoignage pour moi. Moi, j'ai vécu un peu une histoire comme ça. Est-ce que j'ai crié en Bandaka? Alors, je vivais avec un frère. J'étais encore célibataire. Je venais de croire le message. C'était un frère assez difficile de caractère. Mais Dieu m'a beaucoup aidé, vraiment, pour que je puisse le supporter. Mais un jour, il y a un frère et une sœur qui nous voyaient vraiment, nous étions bien là-bas. Il a dit, mais toi, tu es encore célibataire. Mais nous avons des enfants. Tu peux nous donner ce frère pour que ce frère puisse nous aider aussi dans nos travaux ménagers. Alors intérieurement, je disais, ah, est-ce qu'il va supporter ce frère? Il dit, bon, comme vous demandez, bon, je n'ai pas dit ça directement, puisqu'il ne faut pas dire des choses mauvaises de nos frères. Alors, ils ont pris le frère, ça n'a pas fait deux jours. Ils sont revenus. Mais pourquoi ce frère? Mais comment vous le supportez? J'ai dit, mais c'est un frère. C'est votre frère. Supportez-la. C'est pour que vous ayez la tempérance. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, voilà. Donc, Dieu, à cette étape-là, vous avez une foi immature, un zèle immature, mais Dieu forme ça. Dieu va former, puisque c'est une véritable foi, mais qui n'est pas encore très mûre. C'est un véritable zèle, mais qui n'est pas encore très mûre. Mais Dieu va former ça dans des épreuves. Dieu va former ça en mettant à côté de vous des choses que vous n'aimez pas. Il va vous observer maintenant. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Et nous allons continuer avec ça puisque c'est une étape merveilleuse. Là déjà, il y a même des miracles que vous pouvez, qui peuvent même s'opérer. Hein. Il y a une vie extraordinaire, une vie de sainteté extraordinaire. C'est là où il y a par exemple le jeune homme riche là. Il dit, j'ai pratiqué tout ça depuis ma jeunesse. Et Dieu n'a pas, Jésus n'a pas dit que c'est faux. Donc à la lettre, tous les commandements. Mais il lui manquait une chose. Il n'était pas encore entré dans le lieu caché à Jésus-Christ. Il n'avait pas encore la révélation de ce qu'on appelle la vie éternelle. Puisqu'il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Tu n'as rien à faire. Pour avoir la vie éternelle, il faut seulement tomber amoureux de Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie, la vérité, le chemin. Alléluia. Mais il n'avait pas encore cette révélation. Jésus essayait de l'aider pourtant. Il dit, mais bon, il a dit, bon maître, mais pourquoi tu m'appelles bon? Est-ce qu'il y a, qui est bon si ce n'est Dieu seul? Hein? Tu m'as appelé bon, donc tu as compris que je suis Dieu. Tu as compris que je suis la vie éternelle. Voilà. Mais, justement, les richesses avaient beaucoup plus d'importance que Jésus pour cet homme-là. Alléluia. Alors, là, nous verrons aussi, donc, la façon de prier change aussi dans ce niveau. Je vais quand même lire ceci. Hein. Donc, à ce niveau-là, la vie vraiment, la vie chrétienne... Et c'est un niveau assez trompeur, vous pouvez dire, ah, mais ça c'est fantastique. Puisqu'à ce niveau-là, comme le frère Branham le dit dans la brochure, pourquoi les gens sont si ballottés, l'homme cesse de boire, l'homme cesse de fumer, il cesse de mentir, il cesse de voler, il traite correctement son voisin, il est bon envers sa femme, ou elle est aussi bonne envers son mari. Il a perdu toute sa méchanceté. Cela se fait à travers le sang, avec la sanctification. Il est appelé à une nouvelle vie. Et à ce moment-là, le frère Branham qui dit qu'il y a même le baptême du Saint-Esprit, mais au niveau maintenant de l'Esprit. C'est ce que vous voyez même chez les pentecôtistes, beaucoup de miracles. Mais ce qui va vous achoper, celui qui a, par qui ce miracle a été opéré, vous allez apprendre, non, il est avec des femmes. Il a trompé sa femme. Ah, ça n'a pas vraiment... Le prophète a été difficile à digérer ça. Il dit, comment se peut-il que le Saint-Esprit puisse utiliser puissamment quelqu'un, mais qui est dans une vie comme ça? Et Dieu lui a montré que non, c'est justement au niveau de l'Esprit seulement. Il est encore à un deuxième niveau qui n'est pas encore parfait à ce moment-là. Alléluia! Donc, comme il est presque l'heure, donc nous allons nous lever et on va continuer avec ce niveau-là qui est un niveau assez vaste, c'est la sanctification. Vous voyez, c'est le temps qu'ils ont passé au désert, ils ont fait beaucoup de temps. Donc, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Nous pouvons nous mettre debout. Nous allons vraiment demander au Seigneur qu'il puisse nous aider surtout à comprendre l'importance des frères à Christ, d'une sœur à Christ. Parce que Dieu lui-même, il y a un cantique, écoutez l'appel du berger, cherchons-le dans le cœur. Donc, savons-nous le prix d'une âme? Donc, Dieu, quelqu'un qui l'a sauvé comme ça, a du prix à ses yeux. Quand nous les négligeons, Dieu n'est pas content. Il ne peut pas nous bénir. Donc, que Dieu nous aide vraiment à vivre ce que le frère Branham appelle entrer dans la souffrance de la personne. On va juste chanter, écouter, après on va prier, écouter l'appel du berger, c'est Phare de bleu, deuxième partie, 161. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis dont j'aime. Il les appelle avec amour, espère toujours les retours. Cherchons ça vaut nous le prix d'une âme. Les beaux bergers les réclament, mourant de froid, de soif, de... Oui, les brebis appellent à vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, ça vaut nous le prix d'une âme. Cherchons-les, les beaux bergers les réclament. Ne peut-il pas compter? Oui, ne voulons-nous pas y aller tous? Dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, ça vaut nous le prix d'une âme. Cherchons-les, les beaux bergers les réclament. Nous allons prier que le Seigneur nous donne cet amour véritable de nos frères, de nos sœurs, qui nous aide à comprendre la valeur d'une visite fraternelle, que nous puissions commencer déjà à prier, et c'est l'instrumentaliste peut jouer juste la mélodie. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, oh, combien tu es bon. Oh Seigneur, tu as manifesté un amour incommensurable. Oui, tu es allé nous ramasser dans les excréments de ce monde, là où, Seigneur, les péchés nous maltraitaient. Et tu as permis que, ô Dieu, nous puissions voir la lumière au temps du soir. Ô Dieu, alors que nous ne le méritions même pas, Dieu de gloire et de miséricorde, quand tu le fais ainsi, Seigneur, c'est pour que nous aussi, nous puissions voir la valeur, Seigneur, de toutes ces personnes que tu as sauvées par ta grâce. Seigneur, nous avons compris que, ô Dieu, le secret de tes serviteurs, Moïse et Branham, c'était que, Seigneur, ils pouvaient vivre ce verset qui est dans 1 Corinthiens 12. Oui, Seigneur, ils savaient qu'un frère et une sœur à Christ, ce sont des personnes avec qui ils vont vivre toute l'éternité. Des personnes qui sont dans le même corps que le Seigneur Jésus-Christ, avec lesquels ils sont dans le même corps, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu nous venir en aide, Seigneur? Oh Dieu, nous sommes en train de nous examiner pour chercher à savoir si nous sommes vraiment déjà dans ce niveau. un niveau où il y a du zèle pour les choses de Dieu. Oui, Seigneur, tu as blâmé sérieusement Laodicée. En disant que Laodicée n'a pas de zèle, Seigneur, pardonne-nous. Toutes les fois, Seigneur, que nous avons fait les choses avec négligence, que nous n'avons pas manifesté du zèle pour les choses du royaume, alors que notre Seigneur, qui est notre exemple, ce jour-là, il est entré dans le temple. Il a débarrassé le temple de tout ce qui n'était pas, oui, admissible dans le temple. Et il accomplissait l'écriture qui disait « Les ailes de ta maison me dévorent. » Seigneur, place ces véritables ailes dans nos cœurs, Seigneur. Et nous avons compris que sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, sans toi, nous ne pourrons même pas, Seigneur, vivre une vie comme celle-là. Oui, Seigneur, et si nous nous remettons seulement entre ta main, nous te demandons, Seigneur, de nous aider toi-même. Les temps sont très, très avancés et tu voudrais qu'avant que tu ne viennes, nous puissions, ô Dieu, être sanctifiés dans toutes les parties de notre être, le corps, l'esprit et l'âme. Il n'y a pas un autre. Tu l'as dit dans le livre d'Ézéchiel, Seigneur, et nous nous remettons entre tes mains. Bénis tes fils et tes filles qui ont écouté ces quelques paroles, Seigneur. Ô Dieu, que la lumière de ta parole puisse les accompagner. S'il y a des malades au milieu de nous, il n'y a pas un autre qui guérit, il n'y a que toi, Seigneur. Et ma prière, c'est que tu puisses l'aider afin qu'il puisse capter cette petite voix tranquille qui puisse lui dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Qui te guérit de toutes tes maladies. Seigneur, accorde-nous cela. S'il y a quelqu'un, oh Dieu, qui n'est pas encore dans ce niveau et qui a fait longtemps dans ce message, Seigneur Jésus, nous avons appris que cette relation personnelle avec toi, c'est une relation qui évolue du parvis, jusque dans le lieu saint et de là jusque dans le lieu très saint. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, demandant que tu puisses nous aider toi-même à escalader toutes ces phases. Tu puisses nous aider, Seigneur, ô Dieu, à partir de la foi intellectuelle pour que nous ayons cette foi authentique qui est basée sur la révélation. Parce que nous avons appris que la révélation est la chose la plus solide qui puisse exister. Tu en avais parlé à Pierre, ton serviteur, Seigneur. Tu as dit sur ce roc de la révélation, je bâtirai mon église et les forces du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Merci, Seigneur. Nous croyons que tu nous as écoutés, ô Dieu. Tu es venu avec nous. Retourne encore avec nous, Seigneur. Puisque toi, tu es notre paix, quand nous allons nous retrouver dans les véhicules faits de mains d'hommes, Seigneur, que ta main toute puissante puisse se manifester afin de nous mettre à l'abri des dangers, des accidents. Que, oh Dieu, la puissance de ta parole puisse vraiment nous accompagner jusque dans nos maisons. Nous ne cessons de le dire que nos maisons, Seigneur, oh Dieu, ça doit être des sanctuaires, là où tu prends la première place, des maisons de prière. Aide-nous afin que ça puisse être ainsi, Seigneur, puisque nous n'avons rien à gagner dans ce monde. Merci, Père. Nous croyons que tu nous as écoutés. Que le règne, l'honneur, la gloire ne retournent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Allez avec Jésus-Christ. Que Dieu nous assiste afin que nous puissions vivre.